Vous écoutez France Culture, il est 6h. Un autre jour est possible avec Toufik Hakem jusqu'à 6h30.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bon réveil sur France Culture. Nous sommes le vendredi 30 mars. Dans un instant, Benjamin Stora, suite et fin de sa série, son histoire personnelle de la guerre d'Algérie. Et puis ensuite, aux alentours de 6h20, comme tous les vendredis, nous parlerons de l'actualité de la bande dessinée. Mais aujourd'hui, ça sera une fois de plus autour de la guerre d'Algérie, avec cette bande dessinée qui parle d'un épisode sanglant de la guerre d'Algérie sur le sol français, dans l'ombre de Charonne. Mot conduit, nouvel éditeur, donc je recevrai les auteurs Désiré et Alain Frappier. Mais tout de suite, Benjamin Stora.
Les 3 et 4 octobre 2003, à l'auditorium de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, à l'occasion de l'année de l'Algérie en France, la Société franco-algérienne de psychiatrie organise son premier congrès autour du problème, je cite, « des états post-traumatiques liés à la guerre d'Algérie et des phénomènes complexes de la mémoire post-traumatique ». Pour cette première rencontre de psychiatrie entièrement consacrée à ce chapitre de l'histoire des deux pays, la France et l'Algérie, les organisateurs écrivent, je cite toujours, « on ne compte plus les articles sur les vétérans des guerres de Corée, de la guerre du Vietnam, de la guerre du Golfe ». Le travail de mémoire souffrirait-il d'amnésie sélective? Les soldats français, les combattants du FLN, les harkis, les rapatriés, les femmes veuves, les victimes de sévices sexuels, les orphelins, n'auraient-ils pas droit à la même compassion que tous les blessés de la vie par inondation, accident ferroviaire, famine, attentat ou guerre civile? Cette question, évidemment, qui termine notre série consacrée à la guerre d'Algérie et à la mémoire de la guerre d'Algérie, est tout à fait décisive, celle du retour possible dans la société française d'aujourd'hui de cette mémoire de la guerre d'Algérie. Dans les années 1999-2003, lentement mais sûrement, le passé tragique de la guerre d'Algérie est revenu, de manière incontestable, hanter la conscience française. Avec les terribles confessions de soldats français ayant pratiqué la torture, des viols sur les femmes algériennes, ces témoignages se succèdent, notamment lors d'émissions de télévision. Avec également la reconnaissance de l'abandon des harkis, ces troupes supplétives musulmanes abandonnées par les gouvernements français après l'indépendance de 1962. Avec aussi l'inauguration de différents lieux de mémoire consacrés à cette séquence contemporaine tragique de l'histoire française. De sorte que, on peut dire, après le passé de Vichy, ce passé qui refusait de passer, pour reprendre la formule de l'historien Henri Rousseau, eh bien la France, vieux pays qui a mal à son histoire récente, sort lentement mais sûrement de l'oubli des années algériennes. La dénégation de cette période s'était installée, comme on le sait, dès la fin de la guerre d'Algérie en 1962, ce pays voulant tourner cette page douloureuse de son histoire coloniale. Et il y avait eu le refoulement de toutes les exactions commises pendant cette guerre, entretenue par les différentes amnisties promulguées par différents gouvernements, de gauche comme de droite d'ailleurs, en 1962, 1968, 1974 et 1982. Or, on sait que cette guerre d'Algérie a été un événement extrêmement important, une sorte d'événement fondateur structurant en profondeur la culture politique française contemporaine. Et nous savons également, bien sûr, que cette question a été une sorte d'acte inaugural de cette culture politique par la formation de la Ve République. Donc, dans cette histoire de la guerre d'Algérie, où s'était produit cette sorte d'oubli de la guerre, eh bien, progressivement, lentement mais sûrement, sur la base de cet effacement, cette mémoire qui voulait se réapproprier cette histoire de l'Algérie française qui existait, cette mémoire dangereuse, et qui notamment existait auprès des nostalgies de cette histoire coloniale ancienne.
Bien qu'on m'a fait, ni le mal.
Je ne regrette rien, la célèbre chanson d'Édith Piaf de 1961. Mais à côté de cette mémoire qui ne regrette rien, il y a bien sûr, et heureusement, d'autres mémoires qui, elles, veulent essayer de comprendre ce qui s'est passé autour de la guerre d'Algérie pour éviter de la rejouer, pour éviter de la répéter. Et en particulier, à la fin des années 90, un premier seuil a été franchi au moment du procès de Maurice Papon en 1998, jugé pour crime contre l'humanité dans la déportation d'enfants juifs de Bordeaux. Son action a été évoquée à propos de la tragique nuit du 17 octobre 61, lorsque Maurice Papon était alors préfet de la Seine et que fut menée cette terrible répression. Et là, bien sûr, c'est un franchissement, c'est une sorte de retour de mémoire qui s'est accompli. Mais le saut décisif est bien le vote à l'Assemblée nationale française, acquis à l'unanimité en juin 1999, d'une proposition de loi visant à la reconnaissance du terme de guerre pour qualifier les événements advenus en Algérie entre 1954 et 1962. Alors évidemment, ce retour par le haut, pourrait-on dire, a été tout à fait fondamental. Et là, on a vu se succéder toute une série de polémiques, de discussions, de tribunes libres dans la presse, notamment dans le journal Le Monde, où ont été effectués toute une série de reportages sur les exactions commises par l'armée française, c'est-à-dire la question de la torture qui a été évoquée dans le quotidien Le Monde, l'appel lancé dans le journal communiste L'Humanité le 31 octobre 2000, appel signé entre autres par Henri Alleg ou le mathématicien Laurent Schwartz, d'autres bien sûr, d'autres polémiques qui ont eu lieu sur en particulier le rôle, le comportement des gouvernements français dans l'abandon des harkis après l'indépendance de l'Algérie de 1962. Bref, derrière toutes ces polémiques, l'idée de commission d'historiens sur cette séquence a fait son apparition. Le problème des archives de la guerre d'Algérie a été posé. Le contenu des manuels scolaires traitant de cette période a été évoqué, critiqué. Et on a reproché en particulier à ces manuels scolaires de ne pas aborder suffisamment la guerre d'Algérie. Alors il est évident que les choses, depuis 4, 5 ans, 6 ans, ont beaucoup changé, bien sûr. Les manuels scolaires abordent maintenant la guerre d'Algérie. Ces sujets tombent au baccalauréat, tombent au concours. C'est donc incontestablement un franchissement de seuil qui a eu lieu, c'est sûr. On peut aussi dire que des thèses ont été soutenues, thèses fondées, par exemple, sur le décryptage des journaux de marche des régiments français dans le conflit algérien, ou des thèses qui ont été soutenues sur la justice française pendant la guerre d'Algérie ou autre. Alors, ce retour de mémoire de la guerre d'Algérie, on pourra essayer peut-être de le comprendre en revenant à chacun des groupes de mémoire et aux combats qu'ils ont menés. Ce qui explique entre autres ce retour de mémoire, c'est d'abord la bataille livrée par les soldats français qui forment le groupe le plus nombreux de mémoire autour de la guerre d'Algérie, qui se sont battus pour que cette guerre soit enfin reconnue au moment où ils approchaient de la retraite. Et c'est ce combat, cette bataille livrée par ceux qu'on a appelés les appelés d'Algérie, eh bien, a porté ses fruits, puisque, comme on le sait, cette guerre a été reconnue. Alors la conjonction de plusieurs facteurs peut expliquer le retour brutal de cette mémoire de la guerre d'Algérie qui a été longtemps dissimulée, non assumée. Il y a le passage des générations qui joue un rôle essentiel, bien sûr. Au soir d'une vie, des militants peuvent avoir envie de s'excuser ou bien de retrouver ceux qui les ont sauvés, ou un sentiment de culpabilité qui peut émerger, pouvant conduire à un processus de réexamen de cette histoire proche. Et puis de l'autre côté, à l'autre extrémité de la chaîne des générations, la nouvelle génération aussi est avide de son passé. Avec la crise des idéologies, elle se tourne vers le passé le plus proche pour essayer de trouver des points de repère. On a vu notamment que c'était le cas pour les jeunes issus de l'immigration, par exemple algérienne en France. La nouvelle histoire se fait par le récit des victimes et non plus par le discours auto-justificateur de l'État. Et on peut voir, bien sûr, à travers l'ensemble des procès qui ont eu lieu, comme celui du procès de Maurice Papon, cette sorte de judiciarisation de l'histoire, c'est-à-dire ce moment très particulier où on veut faire en sorte que l'histoire serve à juger les individus. La fin du temps de latence peut être une autre explication. Il aura fallu 40 ans pour reconnaître le drame de Vichy. 40 ans, alors, c'est peut-être le temps nécessaire pour regarder la guerre d'Algérie en face, avec l'apparition de sentiments, peut-être, comme la honte ou la culpabilité. ce temps de latence aura fini par révéler beaucoup de facettes, au moins trois facettes du conflit algérien. Une guerre d'indépendance, bien sûr, algérienne, contre la France. Une guerre civile franco-française sur la conception de la nation et la séparation avec son empire. Et puis une guerre civile algéro-algérienne pour le contrôle des populations civiles. Comme facteur possible de compréhension du retour de cette mémoire, il faudrait aussi mentionner l'ouverture des archives, notamment militaires, qui pèsent dans cette nouvelle volonté de savoir. Les universitaires, depuis longtemps, ont pris le relais des journalistes qui, comme Yves Courrière, Jean Lacouture ou Jean Daniel, avaient porté la mémoire de la guerre d'Algérie jusqu'à présent. Et ce monumental travail de classement, de présentation, d'organisation des archives militaires, je pense en particulier au travail remarquable de Jean-Charles Geoffrey, apporte la preuve de l'investissement du travail historique qui ne se contente plus des témoignages d'acteurs ou de la lecture de la presse d'époque. Beaucoup de documents de cette guerre sont désormais accessibles, en particulier du service historique de l'armée de terre, et une nouvelle génération de chercheurs non directement engagés dans les combats de l'époque est en train d'apparaître. Ce passage du témoignage à la critique historique, de la politique à l'histoire, permet bien sûr à des peuples traumatisés, des peuples français mais aussi algériens, d'oser regarder le passé, de cesser de le mythifier ou de s'en détourner pour tout simplement le comprendre. Comme autre facteur possible de retour de cette mémoire, il y a, on en a déjà parlé, la tragédie de la situation algérienne qui réveille, qui a réveillé les souvenirs de la Première Guerre. Dans le même temps où l'Algérie se débarrassait du parti unique, eh bien, les souvenirs revenaient, les souvenirs de cette guerre, les brutalités commises entre Algériens et par conséquent le retour, bien sûr, des responsabilités des uns et des autres. Autre condition du retour de mémoire, c'est le fait que la génération, ce qu'on appelle la génération des Djebel, c'est-à-dire les anciens soldats d'Algérie, se trouve aux commandes de l'État. Nous avons en particulier le fait que beaucoup de députés actuellement à l'Assemblée nationale ont fait la guerre d'Algérie et ont été partie prenante de la bataille pour la reconnaissance de cette guerre. Enfin, il y a des actes. Il y a des actes, les actes dont nous avons déjà parlé, l'Assemblée nationale française qui a reconnu la guerre d'Algérie, les déclarations du président de la République française au sujet des harkis en particulier, l'instauration d'une journée nationale des harkis. Et puis aussi, ne l'oublions pas, les actes de l'autre côté de la Méditerranée, celle du président algérien Bouteflika, on en a parlé, qui a prononcé un discours à l'Assemblée nationale française, mais qui a réhabilité aussi quelque part les pères fondateurs du nationalisme algérien. Et ce travail d'en haut ne peut exister véritablement que si existe un travail, entre guillemets, dans les sociétés, un travail d'en bas, ce qui est un travail qui est tout à fait décisif. Alors ce travail d'en bas, il est accompli bien sûr par les universitaires, par les chercheurs, par les historiens, par les journalistes, qui continuent ce travail difficile d'investigation, d'exploration, de la vérité historique, c'est évident. Mais ce travail également, il doit être accompli par les acteurs eux-mêmes. Or, sur la tragédie algérienne, il existe un paradoxe tout à fait étonnant, un paradoxe important. Car si on regarde bien ce qui se passe dans la société française, eh bien tout le monde se place en situation de victime de cette guerre. Les Pieds Noirs disent qu'ils ont été victimes de l'abandon de l'Algérie française. Les harkis estiment qu'ils ont été les victimes de l'abandon qui a été le leur par les autorités militaires ou certaines autorités politiques militaires. Les soldats s'estiment victimes pour avoir été engagés, pour avoir été entraînés dans une aventure qui les a largement dépassés. Les officiers disent qu'ils sont victimes puisqu'ils n'ont fait qu'obéir au pouvoir politique. Bref, à entendre l'ensemble des paroles qui sont émises autour de la guerre d'Algérie, tous les groupes porteurs de la mémoire de cette guerre se placent en situation de victime et jamais en situation de responsable. Alors cette question, bien sûr, est tout à fait décisive. Car à force de ne pas situer le niveau des responsabilités exactes dans ce qui s'est produit pendant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire cette sorte d'engrenage terrible qui a abouti à la séparation de l'Algérie et de la France, eh bien, nous ne pourrons pas, à mon sens, bien sûr, refermer pourrait-on dire, définitivement ce dossier. Il faudra continuer ce travail pour, bien entendu, situer très exactement les responsabilités de chacun dans cette histoire. Les responsabilités étatiques, bien entendu, c'est évident, les responsabilités politiques, mais aussi les responsabilités judiciaires, les responsabilités militaires, les responsabilités administratives, les responsabilités policières. Et tant que ces responsabilités ne seront pas exactement établies, eh bien, il sera toujours très très difficile de continuer à travailler sur la guerre d'Algérie. Néanmoins, nous avançons dans la connaissance et dans la reconnaissance de cette guerre. Je pense en particulier à la visite du président de la République française en Algérie en 2003, en mars 2003, où il a évoqué sans fard cette tragédie de la guerre d'Algérie, où il a prononcé un discours à l'Assemblée nationale algérienne. C'est évident, c'est très important, cette question est tout à fait décisive. Je pense aussi, bien sûr, au lieu de mémoire, avec la pose d'une plaque par Bertrand Delanoë, le maire de Paris, à la mémoire des victimes algériennes du 17 octobre 1961. Il faudrait, bien sûr, envisager également la commémoration de ce qui s'est passé du point de vue des Européens d'Algérie, notamment la fusillade de la rue d'Isly du 26 mars 1962 ou des enlèvements d'Européens à Oran le 5 juillet 1962. Toutes ces questions doivent encore être examinées. Mais néanmoins, nous avançons lentement vers une sorte de réconciliation mémorielle qui est très difficile à accomplir car il y a eu beaucoup de sang versé. Il y a eu beaucoup de drames, bien entendu, et cette réconciliation est difficile. Mais quoi qu'il en soit, 40 ans après, c'est le temps d'une génération qui s'est ainsi écoulée. La mémoire ancienne combattante, celle qui veut toujours vivre avec, rejouer toujours la guerre d'Algérie, bien, s'épuise. Ceux et celles qui vont devoir faire et font déjà l'Algérie et la France de demain n'ont aucune responsabilité dans cet affrontement d'hier. Le drame franco-algérien ne devient qu'une simple page de leur histoire. Ils veulent lire cette page avec méthode, loin du bruit, loin de la fureur qui a été longtemps entretenue par leurs aînés. Et l'arrivée de cette nouvelle génération bouscule la bonne conscience intacte à l'égard des pratiques de torture, par exemple, commises pendant la guerre d'Algérie. Les jeunes ne veulent plus vivre avec ce cadavre dans le placard de l'histoire récente, ne sont pas sensibles à la rengaine, du ressentiment. Ils entendent désormais vivre dans une France qui soit réconciliée avec sa mémoire. Et tous disent, 40 ans après, la guerre d'Algérie est finie, cette guerre est vraiment terminée. Il est nécessaire de la comprendre pour ne pas la rejouer dans le présent en permanence. Et je dirais, pour ma part, que cette guerre peut-être sera définitivement achevée dans les têtes et dans les cœurs lorsque l'on aura trouvé une date de commémoration qui puisse mettre tout le monde d'accord, une date de commémoration de fin de la guerre d'Algérie. Et là, bien entendu, une fois que cette fin de guerre d'Algérie sera commémorée, alors on pourra dire de manière quasiment définitive, peut-être, que la guerre est finie, qu'il est temps maintenant de tourner la page et de regarder ensemble vers l'avenir, qui est celui d'un avenir commun entre les deux rives de la Méditerranée.
Voilà, c'est la fin de cette série consacrée à la guerre d'Algérie. Vous pouvez réécouter cette série, ou du moins les derniers épisodes de cette série, en passant par la page de l'émission « Un autre jour est possible » en cliquant sur franceculture.fr. Dans l'ombre de Charonne est une bande dessinée qu'on peut trouver en ce moment. Elle est signée Désiré et Alain Frappier. Nouvel éditeur, Mot Conduit. Bonjour Désiré Alain Frappier.
Bonjour.
C'est le premier titre donc d'un éditeur qui se lance autour de la mémoire et de la transmission de la mémoire. Et vous avez décidé de mettre en bande dessinée le témoignage de Maryse qui, elle, a vécu un épisode de la guerre d'Algérie en France, à Charonne. C'était le 8 février 1962.
On est parti effectivement sur le témoignage de Maryse Tripier, mais on a eu de la chance en fait avec elle parce que bon effectivement Maryse Tripier elle est tombée dans le métro Charonne, elle a participé à la dernière manifestation contre la guerre d'Algérie et aussi contre l'OAS, mais elle faisait partie d'un lycée, du lycée de Sèvres, hein, d'un lycée de la banlieue est parisien. Et du coup, on a eu les témoignages de beaucoup de gens, en fait. On est parti de son témoignage à elle, mais on est remonté. Après, on a vu les anciens élèves du lycée de Sèvres. Et en fait, c'est un récit à plusieurs voix. Hein, c'est comment, en fait, a été vécue la guerre d'Algérie, les deux dernières années de la guerre d'Algérie, par un groupe de jeunes lycéens.
Qu'est-ce qui s'est passé le 8 février 1962 ?
D'abord, il y a eu la nuit qui a précédé le 8 février 1962, où il y a eu à peu près 14 attentats à la bombe posée par l'OAS dans Paris, qui visait les intellectuels, le Parti communiste, les professeurs et tout ça. Et il y en a un
tous ceux qui étaient contre la guerre d'Algérie pour l'indépendance algérienne.
Voilà, exactement. Et il y en a un qui visait le cabinet de Malraux, en fait l'appartement de Malraux, pardon. Et Malraux n'était pas là et c'est une petite fille qui a été blessée, une petite fille de 4 ans qui s'est retrouvée aveuglée par les bombes. Et du coup, il a été décidé dans l'urgence de faire une manifestation.
Une manifestation pour le lendemain. Et comme toutes les manifestations à l'époque, elles étaient très courtes. Elles étaient parce qu'on ne voulait pas d'affrontement avec la police.
Elles étaient interdites.
Donc la manifestation était convoquée pour 18h45, je crois. Elle devait se terminer à 19h30, ce qui est quand même des manifestations très courtes. Et pour éviter d'être là quand la police arrive. Sauf que là, il y avait quand même à peu près, on pense, 20 000 personnes dans le quartier de la Bastille. La Bastille étant interdite de tout rassemblement, de toute manifestation. Les gens sillonnaient en différents cortèges, je crois qu'il y en a eu 6. Le coin, le quartier, et à l'endroit du métro Charonne, au moment de la dispersion de la manifestation, la police qui était présente a chargé très très violemment. Les manifestants ont été pris de panique et ont essayé de s'enfuir, et une partie est tombée dans les marches de la bouche du métro Charonne.
Vous, c'est à partir donc du témoignage d'une lycéenne, une militante qui a vécu dans un environnement très militant, très marqué par le Parti communiste. Comment avez-vous persuadé Maryse, donc celle qui était une lycéenne à l'époque des faits, de témoigner 50 ans plus tard?
Déjà, je la connaissais depuis que j'avais 4 ans, moi. Donc, c'était une connaissance de longue date. J'ai su que l'année dernière que ça lui était arrivé et qu'effectivement, elle avait beaucoup parlé au sein de sa famille, mais elle ne voulait pas spécialement témoigner, elle, parce que c'était une expérience très traumatisante dont elle avait gardé de nombreuses séquelles. Et je pense que c'est l'amitié qui a décidé qu'elle se confie à moi et qu'elle accepte de témoigner. Au départ, Maryse, elle avait très très peu de souvenirs. Elle le dit d'ailleurs à la fin, elle dit « moi j'avais beaucoup plus de séquelles que de souvenirs ». Et du coup, pour combler ces séquelles, on a fait une grande enquête en amont. On s'est beaucoup aidé par exemple du livre d'Alain Deverpe, hein, qui raconte très très bien cette manifestation. Et puis on est revenu voir les anciens du lycée de Sèvres. Et au fur et à mesure qu'on a écrit ce récit, quelque part sa mémoire se reconstruisait.
Et raconter donc cet épisode en passant par la bande dessinée, c'est une idée qui était là depuis le début, Désiré Alain Frappier ?
En fait, au tout début, il a été question que je fasse ça avec Maryse. Et tout de suite, Alain m'a dit, on va le faire tous les deux. Mais ça fait 20 ans qu'on avait envie de faire un récit graphique tous les deux. Et Charonne s'y prêtait tout à fait, en fait, parce qu'il n'y a pas d'image de la manifestation de Charonne. Il y a des images avant, mais il n'y a pas d'image des violences policières. Parce que comme déjà, il y en avait eu du 17 octobre, qui avait été prise par Élie Kagan et que ça avait quand même fait un sacré remous. La police, qui était un peu la même, hein, c'est les mêmes qui massacrent à Charonne. Alors, ils ont massacré beaucoup plus au 17 octobre, mais c'est quand même les mêmes qui massacrent dans les deux manifestations. Et elle avait pour ordre de détruire tous les appareils photos. Donc, on n'a pas de témoignage de ces violences. Et donc, on était forcés de les reconstruire. Et quelque part, c'est sans doute l'intérêt de ce récit, en fait. C'est qu'il y a quand même... Sinon, le livre de Deverpe se suffira lui-même par rapport à Charonne. Mais c'est que là, tout d'un coup, on le voit incarner. Cette histoire, on la voit incarner, on la voit physiquement. Et je pense que ça, c'est une force en plus.
Absolument. On s'est rendu compte, en travaillant d'abord sur l'événement lui-même, qu'il fallait se remettre complètement dans l'ambiance et essayer de restituer, comprendre ce que ça pouvait être d'être un jeune de 17 ans en 61-62, d'être à la fois quelqu'un qui s'amuse et qui danse le twist, mais qui aussi est très proche d'une guerre qui vient, en tout cas dans la région parisienne, et notamment par intermédiaire de l'OAS, mais aussi qu'un garçon de 17 ans sait que dans très peu de temps, il peut partir faire le crapahuté dans le Djebel. Et vu ce qu'on entend, vu ce qui se passe autour de soi, On a très peur. Donc il a fallu, se remettre dans ce travail-là, dans cette restitution, et on a fait beaucoup d'enquêtes, de recherches de documentaires, d'images, voir comment les gens étaient habillés, à quoi ressemblait un flipper, parce que maintenant on n'en voit plus beaucoup des flippers.
Ouais.
Et puis, au niveau du travail purement pictural, il m'a fallu, j'ai carrément reconstitué, j'ai pris des mesures de la bouche de métro de Charonne et j'en ai fait une maquette en 3D. J'ai fait pivoter pour voir un peu comment ça pouvait se passer, comment on pouvait envisager une scène aussi violente que cet entassement humain qui a duré un quart d'heure, 20 minutes. Quoi. C'est quelque chose qu'il nous a fallu vraiment restituer.
Six morts en un quart d'heure, 20 minutes, oui.
Dans l'ombre de Charonne, c'est aussi... une manière de répondre à cette politique de mot-conduit, donc nouvel éditeur, qui décide donc de se consacrer, si j'ai bien compris, à la mémoire et à la transmission.
Oui, en fait, c'est parce qu'il y avait ce projet d'édition, de maison d'édition, et que je connaissais Laurence Antonios, et qu'elle m'a dit, voilà, je voudrais avoir des témoignages intimes qui rejoignent l'histoire en général, la petite histoire qui rejoint la grande histoire. Et c'est à ce moment-là, disons que le projet est né parce que la maison d'édition existait. Et du coup, je lui ai dit, ben voilà, il y a ce projet-là, ça rentre exactement dans ce que tu recherches. Et c'est pour ça. Et en fait, ça a été son premier titre parce qu'il y avait le 8 février, le cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. Mais par rapport au groupe de jeunes, parce que dans ce témoignage intime et particulier qui rejoint le général, on le fait déjà un peu dans le livre avec les autres témoignages, mais c'est, tout à l'heure vous disiez, elle fait partie d'un milieu très politique et tout ça, mais c'est la jeunesse de l'époque qui était très politisée. Et dedans, il n'y a pas que des personnes communistes, il y a aussi le PSU qui est tout neuf, qui vient de se créer, il y a aussi l'UNEF qui est très très puissant à l'époque, il y a les catholiques qui se sont beaucoup investis quand il y a eu la torture, c'est les premiers avec l'humanité qui dénonce la torture et tout ça. Donc c'est tous ces jeunes-là. On était très contents. Même dans ce lycée, il y a Saïd qui est berbère et qui est très lié apparemment au mouvement indépendantiste algérien. Et on était contents de pouvoir avoir toutes ces voix et qui se rejoignent et qui rejoignent celles de Maryse. Et c'était une richesse qu'elle nous permette de les laisser parler aussi.
Dans l'ombre de Charonne, avec une préface de Benjamin Stora, c'est-à-dire que vous avez travaillé étroitement avec les historiens de la guerre d'Algérie.
Alors on a travaillé avec les historiens, mais on a travaillé avec les historiens parce qu'on a travaillé avec les livres des historiens.
Ouais.
Benjamin Stora nous a fait le cadeau de nous faire confiance et de nous faire une très belle préface qui était assez encourageante. Il a aimé le projet, donc pour nous, ça a été très, très porteur. Et en plus, il y a quelque chose dans l'esprit de Benjamin Stora et de ce qu'il défend par rapport à la guerre d'Algérie qui rejoint tout à fait nos convictions.
Dans l'ombre de Charonne, Désiré et Alain Frappier, c'est édité par Mot Conduit. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous en parler.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Dans un instant, les premières informations du jour. Tout de suite après, Marc Vancher. Excellent week-end avec France Culture. J'espère vous retrouver lundi à 6h.